Voilà. Donc, merci à tous ceux et toutes celles qui sont là. Hein, d'après, vous avez fait l'effort. Et c'est bien. Donc nous sommes toujours dans ce thème hein, que nous avons, qui est affiché derrière moi. Donc vous pouvez lire « Construire une famille selon Dieu dans une société sans Dieu ». Qui c'est qui peut me dire ce que l'on doit voir, enfin, quel thème on aborde aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un sait? Ah oui, c'est sur la famille. C'est bien, c'est sur la famille. Donc, qu'est-ce que nous avons vu déjà? Nous avons vu la famille, une institution divine, il y a deux dimanches déjà. Dimanche dernier, nous avons vu la famille et la communication, comment communiquer en famille. Dimanche prochain, nous verrons la famille et l'éducation des enfants. Un thème très important. Hein. Même si on n'a pas d'enfants, c'est bien parce qu'on a toujours des petits et on doit savoir comment l'Évangile nous demande d'être avec eux, avec les plus jeunes. Et donc, c'est important. Et aujourd'hui, nous allons voir la famille et l'adoration, c'est-à-dire le culte de famille. Et si on n'est pas en famille, eh bien, c'est le culte personnel. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'en famille, on le fait en famille. Hein. Voilà. Mais c'est un thème qui est important, la famille et l'adoration. Donc, si nous voulons construire vraiment une famille selon Dieu, il faut se pencher sur le lien qui doit exister entre la famille et Dieu. Quelle relation la famille, on va dire la famille nucléaire. Nucléaire, ça veut dire papa, maman et les enfants, hein, en gros. Alors, on va prendre une famille générale, même si après, les familles peuvent être... On sait que les familles sont toutes différentes, monoparentales ou pas. Mais quel lien, en tant que cellule, on doit entretenir avec Dieu? Donc, c'est important de considérer cela. Et le verset thème qu'on a choisi, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Donc, c'est comme si, ici, Josué dit, voilà, « Ma famille, moi et ma famille, ma maison, c'est la famille, c'est pas le mur, hein, qu'il, il parle pas du mur, simplement. » Mais ça inclut aussi le mur, mais c'est davantage la maisonnée, on pourrait dire. Il dit « Nous allons servir l'Éternel ». Et servir l'Éternel, c'est vraiment rendre à Dieu un culte. Alors, nous allons lire quand même quelques versets. Vous avez déjà lu peut-être le chapitre 6, mais quelques versets du chapitre 6 du Deutéronome. On va regarder un peu dans l'Ancien Testament, un petit peu dans le Nouveau aussi. Donc, Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, Dieu dit ceci par l'intermédiaire de Moïse au peuple d'Israël. À partir du verset 4, il dit « Écoute Israël, Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà donc ce que Dieu dit ici au peuple d'Israël, qui est maintenant délivré. C'est le peuple qui est délivré de l'Égypte, hein, on pourrait dire, voilà, peuple racheté, qui connaît la délivrance. Et maintenant, il donne des instructions pour qu'il puisse savoir comment agir. Donc, on pourrait dire que ce que Dieu donne comme commandement à travers Moïse ici, c'est quelque part un culte hein, que le peuple doit accomplir en famille. Hein, parce qu'il parle de commandements qui sont dans le cœur, après il parle de fait d'inculquer ces choses. Et si vous lisez plus loin, je crois que c'est vers le verset 20, il dit « Quand tes enfants te demanderont pourquoi on fait ceci hein, ?» Et donc, il est question de parler vraiment de l'Éternel, de parler de Dieu au sein de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire servir l'Éternel? Ou qu'est-ce que c'est que rendre un culte à Dieu? Lorsque nous parlons de culte, à quoi est-ce que nous pensons? En premier, si je disais, c'est quoi le culte? On pense, oui, à l'adoration, mais parfois, bien souvent, on pense au culte du dimanche. Le culte, c'est quoi? Le culte, c'est ben, quand on va à l'église le dimanche, y compris qu'on chante et qu'on lit la Bible et qu'on écoute la prédication. Parfois, on peut avoir cette idée-là. Donc, le culte, c'est l'église, c'est ça évoque pour nous le rassemblement qui a lieu où? À l'extérieur de chez nous. Et on dit, je vais au culte. Il y a des gens qui disent, je vais au culte. Est-ce que tu étais au culte aujourd'hui? Donc, je vais au culte, on va se rendre au culte. Et c'est une expression qu'on ne trouve pas dans la Bible. On ne se rend pas au culte, mais on rend un culte à Dieu. Donc, si vous lisez, par exemple, dans, je vais vous lire, ne cherchez pas, mais dans Exode chapitre 13, il est dit, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Canaan, des Éthiens, des Amoriens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce mois. » Donc, Exode chapitre 13, verset 5. Dans le Nouveau Testament, il est question aussi de rendre un culte à Dieu. Par exemple, dans Hébreux chapitre 12 et au verset 28, on peut lire « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Donc, il est question de rendre, et c'est ça que ça veut dire, servir, c'est rendre, c'est comme on rend un service. Donc, on peut dire que le culte, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû, sa gloire qui lui revient, magnifier la majesté de Dieu. Donc, c'est ça que chaque enfant de Dieu est amené à faire. Chaque enfant de Dieu est un adorateur, et donc son être doit être tourné vers le Seigneur, vers Dieu. Il doit le louer pour ce qu'il a fait. Et ce que Dieu dit au peuple ici, c'est quand il l'a fait sortir d'Égypte, il dit voilà, il l'a fait sortir d'Égypte afin qu'il le serve. Et qu'il le serve de quelle manière? Eh bien, de la manière dont c'est décrit là, ici. Donc, le culte, ça n'est pas quelque chose d'extérieur, un ensemble de rites vers lequel je vais. Je vais au culte, mais c'est une attitude d'adoration continuelle que je rends à Dieu en vertu de ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire du salut accompli en Jésus-Christ. Donc, je rends à Dieu la gloire qui lui revient. Et je dois être. Et cette attitude-là n'est pas limitée au temple. Elle n'est pas limitée au lieu où on se rencontre le dimanche ou le mardi soir. Donc, c'est important, le culte à Dieu. Et ce qui est important, quand on est, puisqu'on est dans le thème de la famille, c'est de pouvoir rendre ce culte en famille. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des cultes de famille, j'espère, mais des moments où la famille se retrouve et où on rend à Dieu le culte qui lui est dû, dans la parole, dans la prière, etc. Donc, peut-être on peut se poser la question, quelle est la dernière fois vraiment où, voilà, soit moi tout seul, parce que je suis tout seul, ou avec mes enfants, ou avec papa, maman et les enfants, nous sommes nous retrouvés pour simplement honorer Dieu, prier ensemble, chanter, lire la parole de Dieu. Est-ce que vous trouvez cela important? Est-ce que vous croyez que le culte est en famille est important? Ou est-ce que vous pensez que, ma foi, c'est suffisant, on se voit déjà le dimanche, on se voit le mardi, c'est bien quand même, on n'est pas des païens. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est important, ou est-ce que vous trouvez, il y a des gens qui tout pensent que peut-être, voilà, ce n'est pas si important que ça d'avoir un culte, de se rassembler pour adorer Dieu. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit que c'est important. C'est vrai que la Bible ne parle pas « ayez un culte personnel » ou « ayez un culte familial ». On ne parle pas dans ces termes-là. Mais ce qu'on vient de lire en Deutéronome chapitre 6, je crois, place bien que c'est la volonté de Dieu que la famille, parce qu'il dit « tu as mes commandements, il est mis dans ton cœur et puis tu les inculques à ta famille. » Et donc que les choses, que la famille se retrouve autour des choses qui concernent Dieu. Donc j'ai lu que même dans, chez les païens dans l'Antiquité, hein, ils avaient ce qu'on appelait le culte domestique autour des divinités païennes. Hein. C'est-à-dire que le père, hein, celui qui avait la puissance paternelle, les rassemblait, ils avaient des divinités, qui avaient le dieu de la cuisine, le dieu de ceci, le dieu de cela, et dans les foyers, il y avait des divinités qu'ils adoraient. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, ici, on se rend compte que, les premiers cultes avaient lieu où? Ils avaient lieu dans les foyers, dans les maisons. Hein, c'est là que les gens adoraient Dieu ou même les faux dieux. Hein. Lorsque je crois que c'est dans Exode chapitre 35, lorsque Dieu parle à Jacob et puis il lui dit voilà on va faire ceci. Il lui demande de se purifier. Eh bien il appelle les gens de sa famille et il dit ôtez les dieux étrangers qui sont à l'intérieur. Donc il ôte les dieux qui sont à l'intérieur de la maison. Hein. Donc ils adoraient dans les maison. Et le culte, si vous voulez, le culte public, quelque chose qui est venu un peu plus tard. Mais au début, c'était dans les foyers hein, que l'on adorait. Quand on regarde même dans les Actes des Apôtres avec l'Église naissante, hein, eh bien, il y avait les gens qui, la Bible dit qu'ils prenaient leur repas dans les maisons, dans les foyers, et puis ils rompaient même le pain dans les maisons. Il y avait le temple, ils se retrouvaient au temple, puisque l'apôtre Pierre, ils allaient au temple ensemble, Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour l'heure de la prière, mais aussi il y avait ces réunions dans les foyers qui s'ouvraient. Donc il y avait la famille, et puis peut-être aussi d'autres personnes qui venaient, et il y avait donc un temps de culte et d'adoration qui avait lieu dans les foyers. Et donc, aujourd'hui, cette importance du culte de famille demeure. Et on peut se poser la question, pourquoi avoir un culte en famille? Donc, on veut voir premièrement l'importance du culte de famille. L'importance de ce culte-là, du culte de famille, est liée à l'importance que revêt l'adoration en privé. On peut penser, là, le dimanche, on est dans l'adoration publique. Mais quand on est à la maison, on est dans une adoration privée. Et ce que l'on fait en privé dit beaucoup plus sur ce que nous sommes réellement que ce que l'on fait en public. Et pensez à cela. Hein. On peut faire semblant en public. On peut faire semblant en public. De prier avec des belles phrases, de chanter avec beaucoup d'enthousiasme. Ça peut être vrai. Mais ça peut être aussi faux. Par contre, en privé, la famille, et même quand on est tout seul, on ne se trompe pas soi-même. On sait bien que ça n'est pas juste. On sait bien qu'on ne prie pas, on sait bien qu'on ne chante pas, on sait bien qu'on ne lit pas la parole. Et donc, on peut faire semblant pendant un certain temps en privé, mais on ne peut pas soutenir quelque chose qui est faux longtemps dans le foyer. Dans la famille, et quand on est tout seul, on se trompe pas là-dessus. Et je crois que c'est important de voir que ce que l'on est en privé détermine vraiment qui on est réellement. Et c'est quelqu'un qui disait que ce qu'un homme est quand il est à genoux devant Dieu, tout seul, c'est ce qu'il est vraiment, ni plus, ni moins. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les réunions publiques que l'on peut savoir exactement qui nous sommes, c'est dans la sphère privé et souvent dans la sphère familiale. Donc, adorer Dieu en famille révèle donc réellement notre attachement ou non au Seigneur. Si je dis je suis attaché au Seigneur, je suis au culte, aux études, etc. Mais si dans la famille il n'y a jamais rien, eh bien c'est là qu'on va mesurer vraiment si on est attaché au Seigneur. Regardez ici l'engagement de Josué dans ce verset qui est là. Il dit moi et ma maison, d'accord, nous servirons l'Éternel. Il y a d'abord un engagement commun qui est ici, personnel, moi, et puis il embarque aussi avec lui sa famille, moi et ma maison. Donc l'adoration véritable est d'abord une adoration privée, personnelle, et puis une adoration familiale, avant d'être une adoration, je vais dire, ecclésiale, c'est-à-dire avec l'Église. Le personnel, familial, et après ça s'étend à l'Église. C'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire du cœur vers l'extérieur. Notre cœur doit être d'abord d'abord touché. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans notre passage. Regardez encore Deutéronome chapitre 6 et au verset 6. Il est dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où ? Dans ton cœur. » Il ne dit pas, « Ces commandements que je te donne, tu les distribues à tes enfants. » D'abord, ils sont dans ton cœur. Ils doivent demeurer dans ton cœur. Donc, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu, en premier lieu. En premier lieu. Et ensuite, tu inculques cela à tes enfants. Okay? Donc, d'abord dans le cœur, ensuite les enfants. Donc, le cœur est la première cible des commandements de Dieu, et puis après vient la propagation des commandements jusqu'à la famille. Et même de la famille, ça va jusque sur les murs de la maison. Vous avez vu un peu, hein? Il dit dans ton cœur, à tes enfants, et puis après tu mets ça sur les poteaux de ta maison. Donc, alors parfois on peut avoir des versets partout dans la maison. Ça ne veut pas dire grand-chose forcément, s'il n'y a rien ici. D'abord, ça commence là. C'est pas que c'est mauvais de le faire. Mais faut pas croire que parce qu'on a tapissé les murs de la maison avec des versets, voilà, ça veut dire quelque chose. Ce qui veut dire quelque chose d'abord, c'est d'abord le commandement dans le cœur. Ensuite, tu l'enseignes, tu le propages, et après, bon, en signe, ici, il dit, voilà, pour montrer vraiment que ta maison appartient au Seigneur, eh bien, tu les mets là, de manière à les voir encore. C'est une manière d'avoir devant toi les textes de la parole de Dieu et de te souvenir de ton Dieu. Donc, l'adoration, on pourrait dire donc que l'adoration, c'est premièrement personnel, je l'ai dit, familial, et puis ensuite à l'église. Et l'adoration en public, elle est pauvre, très pauvre, si l'adoration en privé n'existe pas. L'adoration en public puise, on pourrait dire même, sa force dans la réalité de l'adoration privée et familiale. Que vaudrait, selon vous, l'adoration du dimanche matin si elle était portée par des personnes et des familles qui n'adorent absolument pas Dieu à la maison. Imaginez. Temple, les gens viennent le dimanche matin, ils prient, ils adorent, ils chantent, mais personne n'adore Dieu à la maison. La semaine, fait tout à fait autre chose. Et le dimanche matin, qu'est-ce que vous penseriez d'une telle adoration ? Eh bien, Dieu dit ce qu'il pense à l'adoration. Il dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est dans la sphère privée, familiale, que l'on voit où est vraiment le cœur. C'est là que l'on voit où est vraiment le cœur. Jésus condamnait les pharisiens à cause de cela, qu'ils cultivaient l'apparence extérieure au détriment de la piété intérieure. Vous vous rappelez, qu'est-ce que Jésus disait dans Matthieu 6 versets 5 et 6, par exemple, il dit, lorsque vous priez, il parle de l'aumône, de beaucoup d'autres choses, mais aussi de la prière, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Ça, c'est l'espace, quoi, ça? L'espace public. D'accord? On prie debout, au coin des rues, dans le temple, dans la synagogue, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les autres vont nous voir, ils vont nous regarder. Et Jésus dit, ne faites pas comme ça. Il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père céleste qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il faut être vu par Dieu dans la maison, dans la chambre, dans la famille, dans la sphère privée, plutôt que d'être vu par les hommes dans l'espace public, dans la synagogue ou pour nous, dans le temple. Donc l'importance ici, on pourrait dire, du cercle privé est démontrée ici. Dans la Bible, on le voit, le privé, le familial, l'emporte sur le public. Et pour que ce qui se passe dans la sphère publique soit vrai, soit profond, il faut qu'il y ait une réalité privée. Il faut qu'il y ait une réalité privée. Même dans la gestion de l'Église, rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit que c'est dans la maison d'abord qu'il faut exercer correctement la direction, avant de prétendre diriger l'Église. Il dit, il parle des anciens, il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison d'abord. et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc on est là exactement dans la même pensée. Il y a dans, qu'est-ce la sphère privée, la maison, la famille, c'est là que se joue tout. Et même pour diriger dans les affaires de l'Église, il faut d'abord être en règle dans les affaires privées de la famille. C'est une parole qui est très, très importante. Et ce passage montre qu'il y a une puissance qui va du dedans vers le dehors, qu'il y a quelque chose qui va de privé vers le public, de la maison vers l'Église. C'est ainsi que doit se faire le mouvement. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'on ne reçoit pas de l'Église, mais on est en train de dire que l'adoration, pour qu'elle puisse avoir son poids et sa valeur, chaque adorateur doit être un vrai adorateur. Et être un vrai adorateur, c'est l'être dans l'espace privé, comme on l'est dans l'espace public, comme on l'est dans l'espace privé. Il ne peut pas y avoir de séparation entre les deux. On ne peut pas être d'un certain type le dimanche matin, et puis le reste de la semaine, d'un type complètement différent, où on a oublié Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, l'importance du cercle privé en matière d'adoration nous montre que le culte familial est donc important pour nous. Parce que c'est là que nous allons mesurer vraiment si nous aimons Dieu, si nous sommes attachés à lui et si nous voulons transmettre à nos proches la grandeur de la gloire de Dieu. Deuxièmement, on pourrait dire que le culte en famille enseigne aussi la gloire de Dieu. Notre texte dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel ». C'est comme ça que commence le passage au verset 4 de Deutéronome 6. Et on pourrait dire le but de Dieu ici, c'est d'enseigner un culte exclusif. Il n'y a pas de place pour les idoles. Dieu n'accepte pas de rival. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, ce qu'il est en train de dire. Donc cela doit être enseigné, bien sûr, dans l'Église, c'est ce qu'on dit, hein. Dieu est seul Éternel. Mais cet enseignement-là trouve vraiment tout son poids dans la sphère aussi familiale et privée. Quand on peut enseigner à nos enfants que Dieu est le seul vrai Dieu, qu'on peut les réunir pour le dire avec la famille, quand on peut avoir ce culte personnel tout seul où l'on sait, on médite que Dieu est le seul que je dois adorer dans ma vie, cela prend toute sa valeur. C'est facile de le dire quand tout le monde le dit, quand tout le monde le chante. Quand on le dit, quand on est tout seul, quand on est dans une sphère beaucoup plus réduite, cela témoigne de la véracité. Donc le culte de famille permet d'enseigner cela à nos enfants. Ce qui va enseigner à nos enfants davantage ces vérités, plus que l'Église, c'est ce que nous allons faire dans nos foyers. Et puis, le culte de famille favorise aussi, je crois, l'application de l'Écriture dans toutes les activités de la famille. Regardez le verset 7, il dit « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est une manière de dire que quel que soit ce que tu es en train de faire, tout ce que tu fais, que tu voyages, que tu sois à la maison, que tu te lèves, que tu te couches, donc dans l'ensemble des activités, ça permet de dire sur l'ensemble de la journée, eh bien, il est question que la parole ait sa place dans le foyer. Mais pour que la parole ait sa place dans le foyer, dans l'aspect, je vais dire, général, il faut qu'elle ait sa place dans l'aspect spécifique et spécial. C'est-à-dire, si je veux que la parole touche tous les domaines de la vie du foyer, il faut qu'il y ait un temps spécial consacré autour de la parole de Dieu, autour de ses commandements, où l'on est focalisé sur les choses de Dieu. C'est comme dans un couple, vous voyez, le temps qu'on le prend pour faire à deux des choses spéciales va avoir un impact sur ce qu'on fait de manière générale. S'il n'y a jamais de temps spécial, ce que l'on fait en général va... Okay. Quelqu'un disait une fois, voilà, on dit, c'est bien de dire à sa femme, voilà, on peut dire, oui, je t'aime, ça fait 25 ans que je suis marié avec toi, j'ai toujours été là, tu vois bien que je t'aime. Mais une manière de montrer qu'on l'aime en général, c'est de le montrer de manière spécifique. Et le fait de le montrer de manière spécifique, d'accord, renforce la vérité de cet amour de manière générale. Et puis, dans l'adoration, c'est la même chose. Le fait, si on dit, quelqu'un dit, j'aime Dieu, puis qu'il va jamais à l'église, qu'il n'a pas de vie avec les uns et les autres, tu dis, on dira, mais c'est un peu bizarre. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu devrais aimer retrouver les chrétiens et puis louer Dieu avec les chrétiens. Ça paraît logique. Eh bien, dans le foyer, c'est pareil. Imaginez que dans le foyer, on veuille que la parole de Dieu touche tous les domaines de notre vie. Mais si on veut cela, il faut aussi avoir ce temps spécifique. Si une famille dit « j'aime Dieu », mais que dans le temps de famille, il n'y a jamais rien qui concerne Dieu, on se dit, mais comme pour l'Église, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc cela doit nous interpeller. Le culte en famille va pouvoir favoriser l'application de la parole dans tout les domaines. Donc le culte, on pourrait dire beaucoup de choses, de famille est important, chers frères et sœurs. C'est important parce que cela révèle vraiment si nous sommes attachés au Seigneur ou pas. C'est là que l'on peut le mesurer. Alors quelle pratique de culte peut-on avoir? Qu'est-ce que la pratique du culte en famille? Peut-être dites-vous, je veux bien avoir un culte, mais comment faire? Le culte de famille n'a pas besoin de prendre la forme du culte dominical. On prend toutes les chaises de la maison, on les met comme ça, tac, 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 et puis on dit, assieds-toi là, 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 et puis le papa, il monte sur une boîte en carton, et puis, et c'est pas ça, On n'a pas besoin que ce soit sous la même forme que le culte dominical, bien sûr. Le culte de famille tient compte de la composition de la famille. Si c'est une famille avec papa, maman et les enfants, si c'est une famille monoparentale, si c'est quelqu'un qui est tout seul avec son frère ou sa sœur. Donc, il y a le culte de famille, on pourrait dire le culte du foyer, il peut prendre plusieurs formes. Néanmoins, on pourrait se poser la question, si les formes sont diverses, etc., est-ce qu'il n'y a pas des choses que l'on doit retrouver de manière essentielle dans un culte de famille? On est d'accord sur le fait que c'est important le culte de famille. Il faut qu'on apprenne à développer, instituer un culte de famille. Mais maintenant, une fois qu'on a dit cela, pratiquement, qu'est-ce que l'on peut faire dans un culte de famille? Ici, regardez notre texte encore. Il dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tout ce culte, il est basé sur quoi? Sur les commandements. Ce sont ces commandements qui sont dans ton cœur et que tu distribues et que tu mets sur les poteaux de ta maison. Donc, on pourrait dire qu'une chose incontournable dans le culte, c'est bien sûr la parole de Dieu, les Écritures. Si on a un culte en famille, et puis qu'on parle de tout, on dit, voilà, on s'est rassemblé, on a rassemblé les enfants, la famille, et puis on a parlé des inondations, on a parlé de tout ça, oui, c'est bien, et on n'a pas évoqué du tout Dieu ni la parole de Dieu, ça n'est pas un culte, c'est un rassemblement. La famille, c'est bien de rassembler la famille, de discuter, c'est pas mauvais du tout, mais ça n'est pas un culte que l'on rend à Dieu, parce que Dieu n'est même pas évoqué. Donc on voit ici que Moïse dit ici au peuple, il focalise sa pensée sur l'importance des commandements de la parole de Dieu. C'est le point de départ. Il faut connaître ces commandements, il faut les inculquer, les mémoriser. Alors voilà des choses que l'on peut faire avec la parole. On peut mémoriser la parole en famille. Enfin, on cherche ce que l'on peut faire. On peut mémoriser la parole en famille. C'est une manière de faire régner la parole. Avec les petits-enfants, ils aiment beaucoup ça. On apprend un petit psaume. Il y a des psaumes qui sont petits, par exemple. On peut les apprendre pour nous-mêmes et puis les apprendre en famille. C'est un challenge pour la famille. Et on se retrouve le soir, le matin, ça dépend, et on récite, on essaye de savoir qui a avancé. Donc, c'est une manière de permettre à la parole d'être au milieu du foyer. Il est dit ici que tu les inculqueras, donc ça veut dire que tu en parleras constamment, tu leur apprendras la parole et tu en parleras aussi quand tu seras dans ta maison. L'idée ici, c'est que tu t'en entretiendras. Donc, il est question d'entretenir aussi le foyer avec la parole. On peut utiliser la parole pour parler de tous les autres domaines de la vie. On a dit tout à l'heure les inondations. Tiens, pourquoi pas parler des inondations? Ça nous ramène au déluge. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu contrôle ce qui s'est passé ces temps derniers? On peut propager dans la famille une vision biblique des événements que nous sommes en train de vivre, et se rapprocher à travers la parole de Dieu, même à travers toutes les circonstances qu'on est en train de vivre. Donc discuter différentes questions, répondre aux questions des enfants. Regardez Deutéronome 6, verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque ton fils te demandera un jour, des fois les enfants, ils ont des questions. C'est le temps où on peut peut-être répondre à quelques questions des enfants dans ce temps où on met la parole de Dieu en avant. D'accord? Donc, il te demande que signifient ces préceptes, etc. Donc, il faut s'entretenir en famille. Donc, la parole est importante comme ingrédient, on pourrait dire, comme élément essentiel du culte de famille. Autre chose qui est important aussi, je trouve, à mon sens, c'est le chant. Ouais. C'est le chant. Et on se dit, oh, j'aime pas chanter. Ouais. Tu n'aimes pas chanter. Mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que Dieu nous demande de chanter? Oui. Alors, est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on n'obéit pas? C'est ça la question. Alors, on a beaucoup maintenant développé l'habitude d'écouter de la musique. Boum, on a le casque et on écoute de la musique. On dit, bon, je chante pas, mais au moins j'écoute beaucoup de musique. J'ai cherché et j'ai pas trouvé un seul verset qui dit écouter de la musique. Mais j'ai trouvé des versets qui disent chantez à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et donc, voilà quelque chose que l'on peut faire. On n'a pas besoin d'être un théologien pour chanter. Hein? Donc, on peut chanter des cantiques avec la famille. On peut acheter des recueils de cantiques et avoir et pouvoir chanter des cantiques. Pas chanter forcément pendant 24 heures, mais un ou deux cantiques, on peut les faire avec. Et quand les enfants sont petits, c'est quelque chose qui est extrêmement pour eux agréable, hein, de se mettre debout et puis de chanter, d'apprendre. Même des fois, ils arrivent pas vraiment à prononcer les mots, mais c'est pas grave. Ils entendent et ça développe cette attitude de rendre gloire à Dieu à travers le chant. Donc le chant est important. L'apôtre Paul disait instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et si vous lisez les psaumes, il y a beaucoup de psaumes qui disent « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel à cause du salut qu'il nous donne. » Donc nous sommes commandés par la Bible de chanter. Ne pas chanter, c'est une désobéissance. Je crois que ne pas chanter, c'est une désobéissance. Alors c'est vrai qu'on chante de moins en moins, je le reconnais dans ma propre vie, on a tendance à chanter de moins en moins. Mais on doit revenir à la parole de Dieu et reprendre l'habitude de chanter. Il ne s'agit pas de chanter juste, il s'agit de chanter, d'exprimer à travers le chant, même parfois dans notre esprit, silencieusement ou en prononçant les mots, les paroles, chanter des paroles, hein, chanter des psaumes. Les psaumes sont des hymnes, hein, beaucoup sont chantés. Hein. Et puis aussi, troisième, donc la parole, le chant, et puis troisième élément essentiel, je pense aussi, c'est la prière. La prière est importante. On prend la parole, on est aussi dans la parole encouragé à prier. On est encouragé à lire la parole, à la méditer, à l'apprendre. On est encouragé à chanter dans la parole. Dans la parole, on est aussi encouragé à prier. Ça, ce sont trois éléments simples que tout le monde peut faire. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, c'est-à-dire y compris à la maison. » En tout lieu, c'est-à-dire quel que soit lieu. Pas simplement comme ces pharisiens qui priaient dans les rues et dans la synagogue, ils doivent aussi le faire à la maison. Et on peut embarquer pour nos enfants, mais aussi appliquer dans notre propre vie cela. Et puis, troisième point, donc l'importance du culte de famille, la pratique du culte de famille, on pourrait dire, avec ces trois éléments simples qu'on a dit, la parole, la prière et le chant. Je crois que troisièmement, on peut le voir dans ce verset qui est là, ici. Il faut faire le choix du culte de famille. C'est important. On voit comment on peut le faire simplement, mais il faut aussi faire le choix du culte de famille. Ici, lorsque Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il fait un choix. Il dit, je vous lis le verset dans son ensemble, il dit « Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve, soit les dieux de l'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. Mais moi, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il met devant eux ici un choix. Il dit, vous avez le choix. Vous trouvez que c'est pas bon de servir l'Éternel? Ok, servez les dieux étrangers. Je fais remarquer que il n'y a que deux choix possibles. On est obligé d'adorer, de toute façon. On ne peut pas, l'être humain ne peut pas ne pas adorer. C'est impossible. Nous sommes des adorateurs en puissance. C'est ainsi que Dieu nous a conçus. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se convertit, l'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens, je crois, il dit, on raconte comment vous vous êtes convertis en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Autrement dit, on est d'un côté ou de l'autre. De toute façon, on adore. Et c'est pour ça que Josué dit au peuple, si vous voulez pas servir l'Éternel, choisissez de servir. Il dit pas, ok, vous restez tout seul, maintenant, faites ce que vous voulez. Non, il dit, choisissez de servir les dieux étrangers. Parce que vous pouvez pas faire autrement que de faire cela. Et donc, la responsabilité qui est devant nous, c'est de choisir, comme il le dit dans Josué 24, 15 ici, choisir aujourd'hui. Le choix est entre servir Dieu ou servir les faux dieux. Servir Dieu en tant que famille ou servir les faux dieux en tant que famille. Ça veut dire que si je ne sers pas Dieu en tant que famille, je sers les faux dieux en tant que famille. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de troisième voie. Alors comment doit se concrétiser ce choix? Eh bien, premièrement, par la chasse aux idoles. Josué 24, 23. Regardez avec moi Josué 24, 23. Josué 24, 15, c'est derrière nous, mais Josué 24, 23, ici, Josué 24, 23, le peuple veut servir l'Éternel. À partir du verset 20, même un peu plus haut, hein, 19, il dit, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. » Et le peuple dit, oui, nous servirons l'Éternel. Verset 20 dit, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra à vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous sommes témoins. Alors Josué dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrement dit, choisir de servir Dieu, c'est choisir de se débarrasser des idoles. Donc c'est mener une chasse incessante aux idoles. Si je veux établir un culte en famille, servir l'Éternel en famille, il faut chasser des idoles. Il y a des idoles qu'il faut détruire, hein, qu'il faut enlever. Posons-nous les questions des idoles qui nous empêchent d'offrir à Dieu un culte dans nos foyers. La télévision avec son lot de films impurs. Hein, combien de temps je passe devant le petit écran à regarder des choses que je ne devrais pas regarder, et même des choses qui, même les infos sont impures. À la télévision. Des fois, on ne peut pas tout regarder. Hein. Donc, voilà. Peut-être ça, c'est une idole qu'il faut enlever. Peut-être c'est le moi avec mes ambitions, le travail, je suis submergé par le travail. Je travaille tellement que je n'ai pas le temps de m'occuper de la famille, je n'ai pas le temps. C'est une idole qu'il faut enlever. Il est impossible de servir Dieu sans enlever les idoles. C'est impossible. Josué dit, ôtez donc, puisque vous voulez servir Dieu, verset 23, ôtez donc les idoles qui sont au milieu de vous. Donc il faudra pour nous ôter des activités, certains loisirs, certaines ambitions qui sont comme des dieux étrangers dans notre vie. Et puis nous tourner, comme le texte le dit, vers Dieu. Et puis donc mener une chasse aux idoles. Et puis aussi il faut mener une chasse, je termine avec ça, aux idées fausses. Parfois on peut avancer quelques obstacles comme raison à l'absence de culte familial. Par exemple, on peut dire, bon, mais les époques ont évolué. On n'est plus comme avant. La société a changé, les familles ont changé, les moyens modernes de technologie permettent à chacun de s'édifier lui-même sur Internet. D'accord? Et c'est d'ailleurs à chacun d'entretenir parfois sa propre relation avec Dieu. On n'a pas besoin de se retrouver ensemble pour... c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Eh bien, il n'a jamais été dit que les époques et les évolutions des mœurs, que ce sont ces choses qui déterminent notre obéissance ou non à la parole de Dieu. Peu importe l'époque à laquelle nous vivons, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ses commandements seront dans ton cœur. Et ce que Dieu exige pour le peuple d'Israël, c'est la même chose qu'il exige de nous. Parfois, on pense qu'il y a un Dieu qui est exigeant avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et puis un Dieu qui est tout gentil avec nous et qui nous laisse faire ce que nous voulons faire. Non, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et les exigences de l'Ancien Testament sont les mêmes. Sauf que Christ les a accomplies et nous pouvons vivre à travers Christ l'accomplissement de ces commandements. Mais ce sont les mêmes exigences. Les exigences de pureté sont les mêmes. Les exigences d'attachement à la parole de Dieu sont aussi les mêmes. Il n'y a pas de raison que cela change. Parfois, on avance comme idée, je n'ai pas l'habitude, c'est un manque d'habitude. Tu sais, c'est difficile, et puis on n'a pas l'habitude de se réunir en famille, et puis donc c'est pas maintenant qu'on va commencer, c'est un peu tard. Hein. Les enfants sont grands, etc. Et j'ai lu cette histoire de quelqu'un qui dit, imaginez quelqu'un qui dit, je n'ai pas l'habitude de dire merci, alors c'est un peu tard pour commencer à dire merci maintenant. Qu'est-ce que vous lui direz? Il dit, grand-mère, tu peux commencer. Tu commences. C'est pareil, j'ai pas l'habitude de remercier Dieu dans un culte de famille. Tu commences. On demande pardon à Dieu pour ce qu'on n'a pas fait, on aurait dû faire. Et le Seigneur nous pardonne et on vient et on commence. On commence. Tout simplement. Parfois, on avance ce manque de connaissances. Je ne connais pas bien la Bible, alors comment je pourrais enseigner ma famille? Comment je pourrais... J'ai pas étudié beaucoup dans la Bible. Le manque de connaissances, chers frères et sœurs, n'est pas un obstacle pour rassembler la famille, et puis partager la parole en famille. Le culte doit demeurer simple. Une lecture biblique. D'accord? Et c'est pas tellement nous qui enseignons quelque chose. C'est la Bible même. La parole de Dieu même qui enseigne. Il faut savoir cela. La parole de Dieu, peut-être que vous saisissez pas tout. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne. Donc, il n'est pas dit qu'il faut être un théologien sorti de la faculté de théologie pour pouvoir réunir sa famille et puis ouvrir la Bible et lire et donner une explication. Non, pas du tout. On peut faire simplement, et c'est la portée de tout. Si le Seigneur nous demande de le faire, c'est qu'il nous donne la capacité de le faire. Il faut simplement que nous soyons obéissants. Parfois, on dit, l'âge des enfants. Les enfants sont petits, ils ne comprennent pas grand-chose, ils ne savent pas prononcer les mots pour chanter, et puis ils se fatiguent vite, vous savez. Ils tiennent pas en place, en plus. Il faut les tenir, donc les faire rester assis pendant une heure. Vous n'avez pas besoin de les tenir pendant une heure. On fait pendant 15 minutes. Parce qu'ils tiennent pendant une heure devant un dessin animé. N'est-ce pas? On tient pendant 3 heures devant un film. Donc on peut des fois tenir. Mais supposons qu'on ne puisse pas tenir. On peut quand même prendre un petit peu de temps. On n'est pas obligé de faire long. Parfois on dit c'est la composition de la famille. Je suis une femme seule avec 3 enfants. Franchement, c'est pas facile. Je suis éreintée à la fin de la journée. Vraiment, je n'ai pas la force d'ajouter à une journée qui est déjà longue un culte de famille. C'est vrai qu'il y a des fatigues. Et tout ce qu'on avance là sont des choses réelles. Les choses sont réelles en elles-mêmes. Mais Dieu renouvelle nos forces, n'est-ce pas? Parfois, on n'a pas envie de faire quelque chose. Je peux vous donner des témoignages où on dit, il est déjà à 9h. On est fatigué. Demain, il faut prendre le train à 7h. Mais on fait quand même. On fait quand même. Et finalement, en faisant, le Seigneur nous renouvelle. Ça vous est pas déjà arrivé de ne pas avoir envie d'aller au culte, et puis vous y allez quand même, et puis vous entendez la parole de Dieu, et puis elle vous encourage, et puis un autre frère qui vous partage, et puis vous repartez beaucoup moins fatigué, mieux que si vous étiez allé chez le médecin. Parce que la parole de Dieu nous renouvelle. Il dit que, elle peut renouveler, nous rajeunir même comme l'aigle. Si donc n'ayons pas peur, même avec la fatigue, même avec les conditions de famille difficiles, d'instituer ce culte. Et puis parfois, je termine avec celui-ci, on dit que l'agenda des différents membres de la famille est un obstacle. On a des enfants qui ont 20 ans, 25 ans. Chacun a son programme. On ne sait jamais à quelle heure celui-ci rentre, celui-là sort, etc. Et c'est difficile. Il n'y a pas de possibilité d'avoir même un programme. C'est même impossible de trouver un créneau pour adorer Dieu en famille. Faites-le avec ceux qui sont là. Faites-le avec ceux qui sont là. Oh, c'est vrai que des fois, on ne peut pas tout le monde, mais au moins, faites-le avec ceux qui sont là. N'attendez pas d'avoir forcément tout le monde, puisqu'ils sont grands, ils sont majeurs, ils sont à l'extérieur, ils doivent partir, ils ont des obligations, mais faites-le avec ceux qui sont là. Et on n'est pas obligé de faire pour commencer chaque jour, tous les jours. Hein. Il y a des moments où c'est possible, des moments où c'est pas possible, des moments où on est là, des moments où on n'est pas là, mais c'est d'avoir une régularité, de montrer que pour nous, c'est important. C'est important de prendre ce temps avec la famille pour louer Dieu. Le Seigneur en est digne. Le Seigneur en est digne. Donc si nous voulons vraiment construire une famille selon Dieu, on ne peut pas faire l'impasse d'adorer Dieu en famille. Une famille selon Dieu, c'est une famille qui adore Dieu. Un chrétien selon Dieu, c'est un chrétien qui adore Dieu. Donc une famille selon Dieu, c'est une famille qui adore Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et je ne suis pas parfait du tout. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre dans ce domaine. Donc je vous partage des choses que je dois apprendre. Hein. Donc, mais je sais que le Seigneur nous aide. Il veut nous aider. Et s'il voit la disposition de notre cœur, eh bien, il nous aide à trouver ce temps qu'il faut pour pouvoir témoigner de l'intérêt que nous lui apportons en famille. C'est le meilleur des enseignements en tant que parents qu'on peut laisser à nos enfants. Lui ont montré combien c'est important pour nous, ce temps avec, spécifique, avec le Seigneur Jésus-Christ. Simplement, on peut discuter d'un verset, prendre un verset, lire, apprendre un verset, méditer sur un verset. La dernière fois, on a médité, c'est plus sur quoi? Oui, sur le dimanche. Est-ce qu'il faut faire du football le dimanche? Voilà, par exemple. C'est la dernière discussion qu'on a eue. Parce qu'on a lu dans les 10 commandements, le septième jour sera le jour consacré à l'éternel. Hein. Puis, pourquoi pas, hein? Ça nous donne l'occasion de parler de choses de la vie à partir du commandement de Dieu. C'est simple, on peut tous le faire. On termine par la prière, on chante, et nos cœurs, petit à petit, se remplissent de la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique. Mais choisissons de le faire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand c'est que je peux choisir de le faire? Aujourd'hui même, chers frères et sœurs, prenons aujourd'hui la décision de le faire avec notre famille, ou tout seul, avec mes frères et sœurs, de me réunir pour adorer le Seigneur dans des créneaux qu'il me permettra d'avoir. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et merci pour l'aide que tu veux nous apporter. Et je confesse que nous ne sommes pas du tout comme il faudrait dans ces domaines. Mais Seigneur, tu veux nous aider. Ce que ta parole nous ordonne de faire, tu nous donnes par ton esprit la puissance de le faire. Et nous te remercions pour ta compassion, ta fidélité envers nous. Et Seigneur, que nous ne soyons pas découragés par ce que nous n'avons pas fait et que nous aurions dû faire, mais que, comme ta parole nous le dit, nous oublions ce qui est en arrière. Et que nous nous portions vers ce qui est en avant. Et Seigneur, que le passé ne nous décourage pas, et que nous regardions vers toi, vers l'avant, pour avancer de progrès en progrès dans notre vie. Merci pour ta grâce et ton amour qui nous accompagnent. Amen.